Digital sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à nos auditeurs et bonjour à Christina Fauta avec qui nous partons en voyage aujourd'hui.
Bonjour Elisabeth et saluons aussi Simon qui assure la retransmission de notre conversation vers vous.
Et qui nous accompagnera tout au long de notre promenade dans la capitale bavaroise.
Bavaroise à Munich donc.
Absolument. Nous partons donc dans la vibrante capitale de la Bavière. C'est une ville très animée et paisible à la fois. Alors on dit aussi de Munich qu'on dirait que c'est un village. Bah, je veux bien, mais moi qui la connais, je dirais plutôt que c'est un très gros village. Elle compte quand même, retenons bien, plus d'un million d'habitants.
Mais c'est beaucoup pour un village.
Ouais. Il est quand même grand. Hein. Alors, en Allemagne, d'ailleurs, il faut qu'on sache que Munich est la deuxième destination touristique.
Ah oui, donc après Berlin, très certainement, que d'ailleurs nous avons déjà visité ensemble dans une autre émission.
Oui, absolument. Alors, Uli, et alors, ça fait déjà, à mon avis, quelque temps. D'ailleurs, vous pouvez nous réentendre grâce au podcast, mais là, nous parlerons de Munich ou München, comme le disent les Bavarois. Les amateurs de l'art vont y découvrir de fabuleux musées et aussi des somptueuses églises baroques. Et les aficionados de la bière y seront vraiment heureux, que cela soit à la célèbre fête de la bière ou en été dans ce qu'on appelle des bars à bière en plein air. Sans oublier, pour accompagner ce breuvage, la savoureuse cuisine bavaroise. Et pour couronner le tout, il y a l'inégalable hospitalité des Munichois.
Très, très intéressant tout ça. Et quelle est l'histoire de la ville?
Alors cette ville, donc München, d'abord, il faut le savoir que ce mot même, München, veut dire « chez les moines » en vieil allemand, ou « Plattdeutsch » comme on les appelle. Cette ville, donc, voit le jour au 9e siècle, près d'une abbaye bénédictine, où il y avait donc des moines bénédictins.
Ah voilà, et... Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle les armoiries de la ville, sur les armoiries, on peut voir un moignon.
Un moignon, voilà. Bénédictin, bien entendu. C'est exactement le cas. Alors, il fallait attendre jusqu'au milieu du XIIe siècle pour assister au développement de cette cité. C'était d'ailleurs grâce au duc de Saxe, à qui l'empereur Frédéric de Barberousse a donné une bonne partie de ce territoire qui s'appelle donc la Bavière, quoique pas pour longtemps. Car assez rapidement, Barberousse va changer d'avis et finalement c'est le comte de Wittelsbach qui en deviendra le propriétaire. Et plus tard, même l'empereur de l'Allemagne, bon, pas trop longtemps mais pour un certain temps, Munich deviendra le bastion, d'ailleurs, du catholicisme allemand.
Elisabeth, tu parles de ces Wittelsbach qui étaient de la famille de Sissi.
Ah oui, tout à fait, exactement, tu as raison. Mais c'était une autre branche de cette famille qui deviendra, qui ira au trône. C'est pas la femme, pas la branche qui appartenait à la famille de Sissi. Car la famille de Sissi, ils resteront en Bavière, mais ils n'auront pas le duché qui leur appartiendra. Et cela jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors que la branche dont Sissi faisait partie n'avait que le titre. D'ailleurs, on appelait ça des ducs ou des duchesses pour la maman ou son papa. En Bavière, et non les ducs de Bavière ou la duchesse de Bavière.
Là, il n'y en a qu'un seul, je pense, bien sûr.
Oui, alors tous ceux qui ont éventuellement vu les films consacrés à Sissi, ils en ont peut-être entendu parler, cette histoire de duché, duc ou duchesse en Bavière.
Tout simplement.
C'était moins important, hein, quand même.
Et donc, c'est la différence entre eux. Et qui était le célèbre Louis II de Bavière?
Alors, Louis II était donc, lui, il faisait partie de l'autre branche, la branche qui est devenue puissante.
De Bavière.
Voilà, ça, puissante. Et il était donc, sachons-le, le cousin de Sissi. C'était un être fragile, tourmenté et romantique, et un très très grand admirateur du compositeur Wagner. D'ailleurs, pour faire plaisir à Wagner, il était capable de tout donner, de tout faire. Et d'une certaine façon, les fameux châteaux de Louis II de Bavière datent de cette époque-là. Et la construction de ces châteaux extravagants, dont trois en particulier sont vraiment très étonnants, en ont surpris plus d'un de ses conseillers et qui finalement voulait tenter de diminuer les dépenses qui étaient absolument inconsidérées de ce jeune roi qui, je vous dis, faisait tout pour faire plaisir à Wagner, qui imaginait qu'ils avaient finalement un puits inépuisable d'argent, ce qui n'était quand même pas exactement le cas. Et c'est pour ça, comme Louis II ne comprenait pas ça, il a été démis de ses fonctions de duc, de prince, et puisqu'il n'avait pas de descendance, c'est un régent qui a pris la place du souverain qui, on peut dire, il était devenu fou.
Et donc c'est ce régent qui a pris le pouvoir à sa place.
Ah oui, absolument. Et c'était un des cousins de Louis II. Et par la suite, le régent aura un enfant et qui prendra le nom de Louis III. Donc après Louis II, il y aura Louis II, mais en fait, ce n'est pas sa descendance. Hein. Et ce Louis III, qui sera le dernier roi de Bavière, qui de 1911 à 1918 restera à la tête du royaume, où finalement la révolution socialiste signera la fin de la monarchie en Allemagne, comme dans pas mal de pays après cette Première Guerre mondiale.
Et donc, après cette évocation historique, parle-nous, Elisabeth, du Munich de l'an 2000.
Et oui, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Mais tu sais bien à quel point je tiens à l'histoire, j'aime bien. Je pense qu'on s'appuie sur l'histoire pour comprendre le présent. Aujourd'hui et le présent, voilà. Alors la ville de Munich était lourdement bombardée durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle s'est relevée assez rapidement et elle est devenue la plus importante zone économique d'Allemagne du Sud.
Et il me semble que les usines de Siemens et de BMW se trouvent à Munich.
Oui, on connaît les machines dans les maisons, les machines à laver et autres de Siemens qui sont vraiment les meilleures.
Solides.
On dit toujours, oui, voilà. Effectivement, on les trouve là, mais il n'y a pas que l'industrie à Munich. La ville a construit aussi beaucoup d'installations culturelles dans ce 20e siècle déjà et dans le 21e, comme deux pinacothèques, des galeries de luxe. Et n'oublions pas l'organisation réalisée de main de maître des Jeux Olympiques, le 20e du nom d'ailleurs, en 1972.
Et c'était ces Jeux d'été qui étaient si dramatiques.
Eh oui, tristement mémorables, effectivement. Tu t'en souviens, hein, Christine ?
Oui.
Dans la nuit du 5 septembre, les membres palestiniens du groupe Septembre Noir ont assassiné deux sportifs israéliens, tout en prenant en otage 9 autres athlètes, et qui malheureusement seront tous tués, ainsi que les terroristes, lors de l'assaut de la police bavaroise.
Un événement qui a choqué le monde entier.
Ah oui, je pense qu'il y avait de quoi, malheureusement. Alors avant de continuer notre promenade munichoise, pour changer d'idée, écoutons quelques notes de musique de Wagner, la chevauchée de fantastique que vous connaissez très certainement.
Thank you.
Dans notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel, c'est Munich que nous découvrons aujourd'hui. Elle est, on peut dire, deux fois capitale d'ailleurs, puisque c'est la capitale de la Bavière et la capitale de la bière. Il y a pourtant beaucoup d'autres villes dans le monde et en Europe, célèbres pour sa bière, mais...
Oui, comme Pilsen en République tchèque.
Oui, absolument. Mais aucune ne peut rivaliser avec Munich. Ses jardins de bière sont célèbres, ce qu'on appelle Oktoberfest, donc c'est ces festivités du mois d'octobre, qui est une fête de bière, de la bière énorme. Il y en a en plus d'autres fêtes mineures, d'autres fêtes de la bière aussi. Il y a des brasseries parmi lesquelles on compte les plus joyeuses d'Europe centrale. Pour un amateur de la bière, on peut dire que Munich fait penser à Las Vegas pour les adeptes des jeux d'argent. Bon, voilà la comparaison que je pouvais trouver. Ces palais de la bière de Munich, d'ailleurs, ont fait des émules à travers le monde, parce qu'on en trouve des palais de la bière à Tenerife ou en Sibérie. Et ces lieux, on trouve quelques débordements, mais sont des endroits tout à fait accueillants. Et on peut même y organiser des réunions de famille. Donc les enfants peuvent venir sans danger.
Je crois que nous imaginons bien ce côté de la ville qui vibre au rythme de cette boisson. Mais tu as dit que c'était une ville olympique, alors. Et le sport, est-il toujours présent à Munich ?
Ah oui, bien sûr. Mais bien entendu, ce souvenir de ces Jeux olympiques sanglants de 1972 ne s'efface pas du tout. Le temps passe, bien sûr, et dans cette ville, on organise d'autres événements sportifs, mais celui qui était vraiment très important dans les 15-20 dernières années, c'était le championnat du monde de football organisé en 2006. Et pour cette occasion, on a construit le fameux Allianz Arena qu'ils ont édifié à ce moment-là. Voilà, c'était une assurance qu'il a payée. Et c'est un stade, imaginez un stade gigantesque qui a la forme d'un pneu géant de couleur d'argent. Et qui se visite, et même rien que la visite de ce stade est tout à fait étonnant. En y entrant d'ailleurs... On fait une plongée profonde dans l'univers du football.
Bien sûr, et j'ai l'impression que toi-même, tu es impressionnée par ce stade.
Oui, et c'est vrai que je le vois en plus assez souvent. Je vais assez souvent à Budapest et la route passe juste à côté. Donc effectivement, je le connais. C'est vrai que je n'ai jamais vu de match de football là-dedans. J'aurai peut-être une fois une occasion. Pourquoi pas ? Je demanderai ça à mon mari, qui est un adepte.
Donc, je suppose qu'à partir de là, nous partons à la découverte de Munich. Et nous commençons par quelle partie de la ville ?
Alors, démarrons par la très célèbre Marienplatz. Elle est l'âme de la vieille ville. C'est pas une très grosse place, mais elle permet quand même de grands rassemblements autour de la magnifique colonne de Marie, qui était érigée en 1638. Je disais tout à l'heure que Munich était quand même une espèce de centre du catholicisme en Allemagne. Donc. Cette colonne célèbre la victoire sur l'armée suédoise lors de la guerre de 30 ans qui a fait tant de dégâts. La place est ornée par le nouvel hôtel de ville en style néo-gothique, dont la tour haut de 85 mètres offre une vue splendide sur la ville. La place accueille aussi le musée du jouet et une très jolie église qui s'appelle l'église Saint-Pierre, qui est la plus ancienne de la ville.
Et c'est celle que l'on appelle Der Alter Peter, c'est-à-dire le vieux Pierre. Tu nous la décris un peu ?
Oui, c'est un édifice qui nous donne une leçon d'histoire de l'art, puisqu'il y a toutes sortes de parties qui sont dédiées à différents styles d'art, mais voyons déjà son clocher qui est énorme, il mesure 92 mètres de hauteur, vous voyez, c'est pas loin de la cathédrale, et il est le plus haut bâtiment de la ville. On peut passer beaucoup de temps sur cette place et en étudiant un peu tous les bâtiments qui nous entourent, et cette place est absolument charmante. On y découvre un marché aux victuailles qui va sûrement éveiller vos papilles. Il y a des bonnes odeurs et des parfums qui nous entourent. Il y a une autre église aussi, l'église de Saint-Esprit, qui est à l'origine gothique et ensuite transformée en baroque en 1720. Elle a été embellie par un magnifique plafond orné de fresques qui représente la création d'un hospice qui jadis se trouvait dans son voisinage. Plus tard, on l'a démoli pour laisser la place au marché aux Victoires.
Il y a de tout alors sur cette place. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi des musées autour de la Marienplatz dans la vieille ville?
Oui, comme nous parlons de Munich, commençons par le musée de la bière. Bien entendu, très fréquenté. En sortant de cette visite, nous sommes devenus totalement incollables sur tout ce que l'on doit savoir
et
sur
vous
la
marchez
bière.
Toujours, vous marchez toujours droit, non?
Oui, alors en fait, cette bière, finalement, la bière bavaroise, elle n'est pas très forte. Bon, il ne faut pas abuser non plus quand c'est de l'alcool. Hein. Alors, pour connaître la ville, il faut visiter aussi le musée de la ville, donc qui appartiennent à la découverte de la ville, et qui n'est ouverte seulement que depuis 2008. Alors après l'avoir visitée, le vieux et le nouveau Munich n'auront plus aucun secret pour nous, car ce musée nous fera découvrir tout ce qu'on doit savoir et tous les endroits que nous devons absolument visiter dans la ville.
Donc, Elisabeth, quel est le site le plus célèbre de Munich ?
Alors, je dirais peut-être la résidence. Et cet endroit où ont vécu les tout-puissants Wittelsbach jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il sera impossible que je vous énumère toutes les choses qui sont à découvrir, mais sachez quand même que cette résidence est considérée comme ayant le plus bel intérieur Renaissance qui se trouve au nord des Alpes.
Ah oui, c'est déjà pas mal.
Oui, ça fait pas mal, oui.
Et parle-nous des parties de la ville qu'il faut absolument connaître.
Eh bien, comme partout, à Munich, on trouve aussi un endroit comme ça où il faut aller. Eh bien, à Munich, ça s'appelle la Maximilianstraße. Et on peut dire que c'est un lieu cher, prétentieux, mais il faut y aller. Si on veut avoir une visite complète de la capitale bavaroise, qui est bon, une capitale riche quand même, hein, alors c'est normal. Ici, tout est chic dans cette Maximilianstraße. Tout est chic, tout est élégant. Les boutiques, les cafés, les théâtres et le public aussi, évidemment. Cette rue existe d'ailleurs grâce aux caprices d'un des rois de Bavière, en l'occurrence celui de Maximilien II.
Voilà donc le pourquoi de son nom.
Cette promenade, d'ailleurs, qui a été réalisée et créée en vers 1850. Et c'est un mélange stylistique unique, allant du rustique bavarois au style de Renaissance italien, matiné de gothique anglais. Et donc, ça donne un ensemble assez étonnant. Par la suite, on commence à parler même, d'ailleurs, de style maximilien. Vu l'en parler, voilà, c'est une sorte de mélange de style agréable à voir. Le roi, d'ailleurs, y est représenté en statue, en pierre, bien sûr, entouré de quatre petites statues d'enfants qui représentent les quatre provinces du sud de l'Allemagne.
Alors, lesquelles sont la Bavière, la Franconie, la Souabie et le Palatinat, n'est-ce pas?
Oh oui, bravo, tu sais ça parfaitement. Alors maintenant, je vous propose d'écouter une petite pause musicale tandis que nous allons déambuler sur cette fabuleuse Maximilianstraße.
Thank you.
toujours Radio Grand Ciel et notre émission Capitale, où nous visitons la ville de Munich.
La capitale de la Bavière. Dans cette dernière partie, où nous emmènes-tu ?
Alors, on a déjà parlé de quelques musées, mais il en reste encore qui méritent d'être cités, comme celui de l'art égyptien, ou le Panthéon des Feldmaréchaux, ou bien sûr, il y a les pinacothèques, dont on a déjà parlé. Hein. Alors, l'ancienne pinacothèque remplie d'œuvres majeures, et ensuite, on trouve celles de l'art moderne dans la nouvelle pinacothèque. Il y a le musée des cristaux, où vos yeux vont scintiller à la vue des pierres précieuses. Alors, il y a les cristaux, il y a les émeraudes de Russie, tout comme des fragments de météorites venus des États-Unis, de Kansas. Et puis, il y a aussi le musée des antiquités et encore celui de paléontologie.
Quel choix ! Je n'aurais jamais envisagé Munich, la capitale de la bière, comme une ville d'art.
Et pourtant, elle est le cas. Et d'ailleurs, on peut dire qu'elle n'empêche pas l'autre. Voilà.
Non.
Alors, après les églises de Marienplatz,
oui, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres choses, peut-être aussi, c'est ça ?
J'en suis sûre.
Ah oui, alors, ben oui, c'est vrai qu'il y en a des belles églises, mais question de goût. Voilà, il y en a toutes sortes. Alors, il y en a peut-être celle de l'église Notre-Dame, qui date du XVe siècle, qui est à voir. D'ailleurs, elle a été détruite durant la guerre. Et elle est totalement restaurée de nos jours. Alors, il y a aussi l'église Saint-Michel, dont la crypte froide et humide a accueilli pour l'éternité la dépouille du malheureux. Qui donc, Christine ?
Louis II de Bavière, j'imagine.
Et oui, alors, il faut le visiter aussi, tout à fait. Il y a aussi l'église Saint-Louis, ce si beau bâtiment de style byzantin.
Et les théâtres, tu n'en as pas encore parlé ?
Et pourtant, il doit y en avoir. Hein.
Je pense.
Il n'en manque pas. Voilà, il faut au moins voir le théâtre qu'on appelle le théâtre Cuvillier, qui est le plus beau théâtre de style rococo en Europe.
Mais pourquoi ce nom ? Qui était Cuvillier ?
C'était l'architecte du théâtre. Il était construit au milieu du XVIIIe siècle. La première de l'opéra Idoménée de Mozart a eu lieu dans ce théâtre. Les restaurations entre 2000 et 2010 lui ont rendu toute sa splendeur.
À propos d'Idoménée, tu nous dis qui il était ?
Alors, il était le petit-fils de Minos.
Le roi de Crète.
Exactement. En revenant de la guerre de Troie, Idoménée se retrouve perdu dans une tempête. Il prie Poséidon et lui fait une promesse de sacrifier, s'il échappait à la tempête, la première personne se présentant à lui. Alors, hélas, ce fut son fils. Et Idoménée accomplit l'horrible promesse faite à Poséidon. Plus tard, une épidémie va éclater en Crète et dont, bien entendu, on va le tenir responsable puisqu'il a tué son fils. Alors, il doit quitter la Crète et Idoménée va se réfugier dans le sud de l'Italie où il va fondre la ville de Salente, où un dénommé mentor lui enseignera l'art de gouverner.
Et on a toujours besoin de mentors.
Exactement.
Et après ce voyage dans la mythologie grecque, retournons à Munich et allons voir ces jardins, s'il y en a.
Alors, quelle question ? Bien sûr qu'il y en a des jardins, comme par exemple le Hofgarten. Garten, c'est le jardin. Près de la résidence, ou parterre de fleurs, chemin de gravier, bordé de tilleuls, se déploie et laisse la place au Diana Temple, donc l'église de Diane, qui est une super pavillon construit à l'honneur de la déesse romaine de la chasse, bien sûr.
Et ce n'est pas le seul jardin de Munich, n'est-ce pas ?
Non, absolument pas. Il y a l'ancien jardin botanique aussi, qui mérite une découverte. Beaucoup, surtout pour l'ambiance reposante qui y règne. Car en fait, ce n'est plus le jardin botanique. Durant le nazisme, ce jardin était devenu un parc public. Les spécimens délicats ont été tous déplacés pour les sauver dans un autre jardin qu'ils ont créé, qu'on appelle le nouveau jardin botanique, qui est aussi à visiter, bien entendu, si vous voulez voir des belles plantes, mais Il y a encore un autre parc aussi qu'on appelle le jardin anglais. Alors, on imagine un jardin à l'anglaise.
À l'anglaise. Et je pense, Elisabeth, que nous approchons de la fin de notre émission. Mais avant de terminer, peut-être, peux-tu nous indiquer un ultime lieu à voir absolument ?
Alors, dans ce cas-là, c'est, allons voir, la porte de la victoire. C'est ce qui s'impose. La porte s'inspire de l'arc de Constantin que nous voyons à Rome et qui ressemble furieusement à une version miniature de l'arc de triomphe de Paris, qui était érigé en l'honneur de la victoire de l'armée bavaroise sur Napoléon.
Ah oui.
Alors, cette porte de la victoire est couronnée d'une Bavaria triomphante conduisant un char tiré par des lions. Aujourd'hui, on parle d'un mémorial de la paix quand on la voit.
Voilà un beau monument pour clore notre visite de Munich. Merci, Elisabeth, pour cette découverte.
C'était avec plaisir que je vous ai amené dans cette ville que je trouve bien agréable. Merci aussi de nous avoir écoutés
sur
Radio.
Et si nous allions déguster un bavarois?
Peut-être oui. Maintenant, on va aller peut-être manger un bavaroise au chocolat. Pourquoi pas?
À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Radio Grand Ciel, bien sûr.